curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
C'est 23.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois.
Eh bien, les députés de Dallas vont peut-être donner un peu d'air aux Canadiens parce que pendant la pause publicitaire, je constate que les Stars viennent de faire l'acquisition de Chris Tanev. Alors, le défenseur qui va bloquer des lancers pour eux, ça sera pas David Savard, c'est Chris Tanev. Ça me semble un cas réglé. Maintenant, enchaînons immédiatement en accueillant Stéphane White. Bonsoir Stéphane.
Salut Mario.
Alors, réaction à chaud, Tanev avec les Stars de Dallas entre Tanev et Savard. Je sais pas si c'est une question de négo avec les équipes que ça aboutit sur Tanev ou si Tanev est mieux classé que Savard.
Ben, moi je pense que Tanev est mieux classé que Savard.
Ah, c'est mieux, oui.
Ah oui, oui, aucun doute là-dessus. Écoute, beaucoup plus mobile, beaucoup plus jeune. Je pense que c'est une très bonne transaction. La seule affaire, c'est que c'est un joueur de location, Tanev, qui va finir son contrat cette année. Donc, moins compliqué, mais une très bonne transaction pour les Stars qui avaient déjà une des meilleures équipes dans l'Ouest. Bon, écoute, c'est un gros morceau du puzzle qui s'ajoute.
34 ans dans le cas de Tanev. Maintenant, victoire du Canadien hier, Stéphane. Puis tu sais, tu l'avais dit également sur sortie de zone, là. Même si t'en joues une pas bonne, pourrie, ça, c'est pas comment, là, c'est combien. Il fallait la gagner. Fait que toi, tu calcules que c'est une grosse victoire hier, même contre les Coyotes.
Oui, il y a sûrement du monde qui en ce moment, qui écoutent puis qui vont dire hey, ouais relax wait c'est une victoire contre les Coyotes là puis mais pour moi c'était une grosse victoire importante et puis je m'explique dans le sens que écoute t'as 5 défaites en ligne tu t'en vas sur la route avec pour 4 matchs contre 4 équipes qui vont être très difficiles à battre là on parle de la Floride de Tampa Bay Nashville et la Caroline, c'est 4 places où c'était très difficile. Donc, si tu ne gagnes pas hier, ça fait 6 défaites en ligne. Et avec peut-être la possibilité de s'en aller sur la route et puis avoir 4 autres défaites. Donc, ça, c'est 10 défaites en ligne. C'est très pesant, c'est très démoralisant, c'est très dur dans l'esprit des joueurs. Donc, hier, c'était une victoire. Pour moi, là, je qualifiais ça d'un match important hier. Et puis, je disais, c'est le genre de match que tu t'en fous, c'est pas comment, c'est tu veux la victoire. Puis même si tu joues le pire match de ta vie, même si tu donnes 20 buts, si tu peux réussir à gagner ce match-là, c'est une grosse victoire. Puis ça, c'était le genre de match que peu importe, on s'en fout. Tout ce que ça prenait, c'est une victoire. Et puis Martin Saint-Louis l'a dit, alors, écoute, qu'est-ce qui est bon, c'est que ça met un sourire en face de tout le monde.
Ben, c'est
oui,
sûr.
Oui, on n'a pas bien joué. Puis j'ai aimé que Martin Saint-Louis dise qu'on n'a pas bien joué parce qu'on est habitué avec Martin depuis 2-3 ans.
C'est plus facile de le dire après une victoire.
Peu importe la situation, il y a tout le temps tout. Ah, ça, on a bien joué. Ça, j'ai aimé ça. Mais là, hier, il a dit les vraies choses. On n'a pas bien joué, mais il reste que c'est le genre de victoire que peu importe, tu t'en fous.
T'as aimé son point de presse, dans le fond, davantage que le match ou presque, et t'as aimé ses propos courts sur Slafkovski?
Oui, j'ai aimé ça. Quand il a dit, on lui a parlé de Slafkovski, le fait qu'il l'avait benché pour, en passant, c'est seulement un chiffre, là, une présence.
Ben oui.
Mais quand même, il a dit, moi, je coach. Et puis, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas vu de Martin Saint-Louis depuis ses débuts avec le Canadien. Et là, il commence à lancer des messages. Puis c'est pas un gros message encore là. C'est pas la fin du monde, là, qu'est-ce qu'il a fait hier. Il a fait marquer un chiffre qui c'est une petite tape là, pas trop dure sur ses mains. Là. Tu sais, c'est juste pour dire, regarde, j'ai eu son attention en faisant manquer une présence. C'est pas beaucoup, mais devenant de Martin Saint-Louis, j'ai jamais vu ça encore. Et puis, commence à qu'est-ce qu'il a dit hier, à coacher. Et ça, c'est une autre amélioration. Le gars, il progresse. Il a commencé avec zéro expérience, puis à chaque année, tu vois, oh, il devient de plus en plus un coach. Et puis, sauf que, écoute, c'est quand même pas beaucoup.
Mais non, une présence.
Un chiffre. Mais c'est assez pour lancer un petit message. Puis ça commence de même. Puis la prochaine fois, ça va peut-être être 3 chiffres. Puis la prochaine fois, ça va peut-être être une période. Mais je suis une affaire, moi. Un Joey Farabee avec les Flyers, qui est un joueur établi, qui est un bon joueur, au mois de novembre, avait eu un très mauvais match. Deux présences en partant le match qui avait été vraiment pas bon. Et un gars comme John Tortorella l'avait benché pour le restant du match. Donc, il avait été 57 minutes sur le bout du banc. Ça, c'est une vraie punition.
Ça, c'est une vraie de vraie. C'est qui a subi ça également, qui a été benché un match cette année, là, que les caméras étaient sur lui? C'est drôle, mais on a tellement de contenu analysé. Peu importe. En tout cas, il y en a une couple, puis là, les caméras sont sur toi. C'est Huberdeau à Calgary.
Oui, exactement. T'as tellement raison. Mais ça, c'est des vrais messages. Au moins, Martin, il faut que tu commences à quelque part. Là, il a commencé avec une présence. C'est un petit message qu'il a lancé. Et puis, mais ça, il devient un coach. Puis ça, j'aime ça.
Reconstruction, bon, Ketchuk, tu sais, on ne sait pas exactement c'est quoi le fond de l'histoire, mais tu veux pas que tes gars se tannent ou se lassent d'être dans une équipe qui n'est pas capable de gagner, qui n'est pas capable de faire les séries. Et après quelques années à rater les séries, moi, j'espère en tout cas que l'objectif avoué, affirmé du Canadien, ça sera d'essayer d'y faire, puis avec une bonne chance d'y faire, puis ça va prendre du sang neuf, ça va prendre quelques joueurs de plus. On a discuté plus tôt aujourd'hui, je regardais le marché des joueurs autonomes. Commençons juste par, pas parce que c'est des Québécois, mais il y a des bons joueurs de hockey là-dedans. Vois-tu un joueur autonome cet été que tu vois venir aider le Canadien en acceptant son rôle, mais en aidant le Canadien à gagner entre tous des cas différents, là? Perron, Marchessault, Beauvillier, Duclair, Manta. Ouais. Lequel serait ton choix si tu avais l'occasion de t'entendre avec puis de soumettre un contrat? S'il y en a un, peut-être aucun aussi.
Probablement aucun, malheureusement. Encore là, tu sais, moi, là, premièrement, si tu vas avoir de l'aide l'année prochaine, puis je suis d'accord avec toi, là, on est rendu à l'étape où ce que là, faut que tu donnes quelque chose à tes joueurs. Faut que tu donnes de l'espoir de faire des séries. Et puis, premièrement, moi, j'ai tellement hâte au tournoi de golf, ça va être quoi le message l'année prochaine? Ça, j'ai hâte.
Il
faut que tu donnes de l'espoir à tes Matheson, à tes Suzuki, de dire, OK, cette année-là, les boys, c'est pas 3 ans qu'on vous fait souffrir, puis on vous donne pas beaucoup d'espoir, mais ces joueurs-là, à un moment donné, vont se tanner. Et puis, c'est important de lui donner de l'espoir en essayant de rajouter l'alignement 2, 3, peut-être 4 joueurs qui vont avoir un certain impact dans cette équipe-là sur des deuxièmes trios, des troisièmes trios, ou peut-être un défenseur qui peut se rajouter là-dedans si jamais un David Savard part d'ici une semaine. Mais au niveau des Québécois, je regarde la liste. Anthony Manta, peut-être un 3-4e trio, 29 ans, ça, il y a encore des bonnes années, un gros gabarit. Jonathan Marchessault est déjà rendu à 33 ans. L'année prochaine, c'est 34 ans. Je suis pas sûr.
Lui, il va vouloir gagner. Il va aller dans un club qui veut gagner la Coupe, peut-être, mais continue avec David Perron.
À son âge, oui. Et probablement qu'à son âge, le meilleur fit va encore avec Vegas. Mais un gars comme David Perron, que j'adore, mais il est quand même rendu à 36 ans. L'année prochaine, c'est un gars de 37 ans.
Mm-hmm.
C'est pas le fit que ton équipe. D'Anthony Beauvillier, 27 ans peut-être, mais avec un contrat très, très, très de base, 1 an, pour voir si on peut le relancer sur un troisième trio. Donc, ça serait des choses de
Stéphane, je ne sais pas si tu peux bouger. On n'a pas une bonne qualité de ligne téléphonique ce soir. Des fois, tu sais, ça ne tient pas grand-chose. C'est peut-être parce qu'il ne fait pas beau dehors aussi. Là, j'ai aucune idée.
Ouais.
Puis, tu es peut-être à la même place que d'habitude, mais c'est pas terrible. Jeremy Swayman est un jeune gardien de but avec les Bruins de Boston, le duo Hallmark et Swayman. Il devient joueur autonome assez étonnamment. Lui, dans le fond...
Avec restriction.
Alors ça, c'est toute une différence.
Ouais,
fait qu'il va rester à Boston, ils vont le garder.
Jeremy Swayman s'en va nulle part. Et s'il s'en va un quelque part, je vais être le gars le plus surpris sur la planète. Parce que le gars, il est 4 ans plus jeune que Ullmark. Ullmark, qui gagne 5 millions par année. Swayman est prêt avec le numéro 1. Et cette année, Swayman a de loin des meilleures statistiques que Ullmark. Donc, les Bruins vont avoir une grosse décision à prendre. Premièrement, ils se doivent de signer Jeremy Swayman, qui est seulement à 25 ans, commence ses meilleures années dans la Ligue nationale. Et puis, Ullmark, je pense que Swayman est un meilleur gardien de but qu'Ullmark. Et Ullmark, rendu à près de 30 ans l'année prochaine, écoute, déjà, c'est pas le futur des Bruins. Donc, ça va être intéressant de voir ce qu'on fait avec Ullmark. On va être capable de l'échanger, de le passer à une équipe qui a besoin d'un bon numéro 1. Donc, ça va être un dossier qui va être intéressant à suivre.
Tu ferais quoi avec un joueur mécontent? Mettons que Ketchuk est mécontent, là, puis qu'il y a un fond à l'histoire. Ouais. Puis on va parler avec Sylvain Saint-Laurent d'Ottawa tout à l'heure. Tu gères ça comment, Stéphane? À partir du moment, parce que tu sais, on dit toujours, nous autres, on va à Montréal, des gars qui veulent jouer à Montréal. Mais, tu sais, il y a des situations réparables, mais tu veux pas un gars qui est plus content dans ton environnement, là?
Ketchuk, ça peut devenir un problème à Ottawa. On sait que c'est passé avec son frère à Calgary. Son frère qui n'avait assez de Calgary, qui disait, écoute, on ne progresse pas, moi je veux gagner, je veux aller une place que je peux gagner. Et puis, il s'est arrangé pour sortir de là. Et puis, ça peut arriver éventuellement si les Sénateurs, on l'entoure pas mieux et on fait pas des moves pour être des sérieux aspirants premièrement à faire les séries, ça bien sûr, mais plus, donc ça va être, c'est quelque chose qui va être un dossier à surveiller, mais les Sénateurs ne peuvent pas se permettre de perdre un Ketchuk. On sait que ce que ça a fait à Calgary, ça les a reculés de quelques années, le fait que l'autre Ketchuk, le frère, a demandé de partir. Donc, c'est un dossier qui pourrait se ressembler beaucoup, surtout ces deux frères, deux Américains,
oui.
Deux gars qui veulent gagner, deux gars qui ont la flamme de gagner tous les jours, puis deux gars qui accepteront pas de passer plus de temps avec une équipe qui s'en va nulle part.
Stéphane, pendant tes 18 années dans la Ligue nationale, aurais-tu aimé ça avec les Hawks ou le Canadien, que compte tenu de ta position au classement, que plus tu finis haut, que tu es en mesure de choisir ton adversaire en série, la LPHF va faire
Quelle décision stupide.
Ah oui, tu trouves?
Stupide. C'est incroyable. J'en revenais pas quand j'ai vu ça.
Mais pourquoi?
J'aimerais-tu pas être dans la peau, moi, de l'équipe numéro 1 qui choisit son adversaire? Tout ce que tu fais, c'est de motiver au maximum ton adversaire. Vous leur dire, hey, les filles, ils nous ont choisis. Ils nous respectent pas. Ils pensent que on est l'équipe la plus facile à battre dans les séries. Tu peux-tu donner plus de gaz que ça à un adversaire? Je détesterais avec l'équipe numéro 1 qui a choisi son adversaire parce que c'est la pire affaire que tu peux pas avoir.
Écoute, donc, en tout cas, Stéphane, on a toujours ton opinion, mais moi, je trouve ça original. Puis, tu sais, dans le fond, si t'as peur de la pression, de la motivation, c'est parce que t'as pas de colonne, tu sais, c'est parce que t'es comme une feuille au vent. Mais je comprends ce que tu veux dire, mais là, je veux pas que tu l'aies trop facile.
T'as pas besoin de choisir ton adversaire. C'est la pire affaire. Bon, c'est Montréal qui finit premier. J'aimerais pas, moi, avec Daniel Sauvageau, que dire, on choisit notre adversaire. C'est la pire affaire. On va prendre ceux qui sont là. C'est les derniers. Ben, c'est pas nous autres qu'ils ont choisi. C'est parce qu'ils ont fini les derniers. Mais quand tu choisis ton adversaire, là, oh my God, tu peux pas donner plus de gaz que ça à ton adversaire. Et ça, c'est dangereux. Quand j'ai su ça, j'ai dit, ben, voyons donc, je veux pas finir premier.
Puis qui choisit pour empire, dit-on, hein? Tu sais, comme le Canadien. Exactement. Qui est allé en finale en 2021, il aurait pas choisi d'affronter les Leafs, tu sais, puis ils ont battu. Tu sais, il aurait pas choisi d'affronter Vegas, sans doute.
Adversaire. Ouais. Si tu choisis ton adversaire, j'en reviens pas.
Écoute, ça va faire jaser ta réaction en dit long, Stéphane. Fait que merci beaucoup. On se retrouve demain après le match contre les Panthers en Floride, mon chum.
Avec plaisir. Bonne soirée.
Puis écoute, il nous en reste un peu, comme on dit. J'en ai gardé pour demain parce qu'on avait un paquet d'autres sujets, mais à suivre.
On a du stock en masse.
Tu peux
en
être sûr.
Du match de demain soir qu'on va avoir à analyser.
En plus, bonne soirée, Stéphane.
Bonne soirée, Mario. Merci.
Au réseau Cogeco. Vous écoutez les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Na, 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 na.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Tournons-nous maintenant du côté des sénateurs d'Ottawa, des rumeurs de mécontentement de Brady Tkachuk avec des sénateurs d'Ottawa qui ont commencé à courir. Ça vient de Ryan Whitney du Spittin' Chiclet podcast qu'on dit proche du père des Tkachuk. Le directeur général des sénateurs d'Ottawa a tout de suite démenti en disant que Brady Tkachuk n'est absolument pas sur le marché. Ben allons tout de suite retrouver notre référence dans l'Outaouais. Et quand il est question des sénateurs, journaliste sportif, Sylvain Saint-Laurent. Bonsoir Sylvain.
Salut.
Il n'y a jamais de fumée sans feu, là. Qu'est-ce que tu fais de tout ça malgré le démenti de Steve Staios?
Écoute, je sais pas, comme tu dis, là, Ryan Whitney a des bonnes relations, des bons liens avec la famille Tkachuk, donc il doit pas sortir ça nulle part. Maintenant, il y a différents degrés d'insatisfaction. Et puis je suis convaincu que peu importe ce qui se passe en ce moment, Brady Tkachuk est sous contrat à long terme avec les sénateurs. C'est le capitaine de l'équipe. Je suis convaincu avant d'en venir à l'échanger. Si jamais il est vraiment mécontent à Ottawa, je pense que les sénateurs vont faire tout ce qu'ils peuvent pour voir s'ils peuvent s'entendre avec lui. C'est régler le problème.
Ça me faisait réfléchir. Bon, c'est sûr que son frère était sur le bord de tester l'autonomie complète quand il a manifesté aux Flames de Calgary qu'il voulait quitter. Mais qu'il te reste 7 ans sur ton contrat ou qu'il t'en reste une, le jour où tu décides ou que tu manifestes à ton organisation, moi, ça marche plus ici. Là, tu as une décision à prendre comme organisation parce que tu veux pas un élément négatif comme leader dans ton équipe. Puis je dis pas qu'il l'est, mais tu veux pas que ça le devienne.
Ouais, non, je suis 100% d'accord avec toi, puis c'est ça que en fait il manque beaucoup d'informations, puis c'est probablement ce qu'on n'aura pas d'ici le dénouement de ce dossier-là, savoir exactement c'est quoi le problème, à quel point c'est un gros problème, et puis je serais curieux d'entendre Brady Tkachuk en parler lui-même de cette situation-là, parce que tu sais comme moi qu'il y a des problèmes dans le monde du hockey qui peuvent se régler, puis d'autres qui avec le temps ne font que se désagréger. La chose que je trouve vraiment curieuse puis étrange dans cette situation-là, c'est que Brady Tkachuk a fait le souhait d'amener cette équipe-là, il a promis d'amener cette équipe-là à la terre promise, puis là, comme les sénateurs, avec un entraîneur expérimenté, commencent enfin à jouer de façon constante puis battre des grosses équipes, là, d'un coup, il voudrait quitter le navire. Moi, je trouve ça un peu curieux. Fait que, j'aimerais ça vraiment l'entendre, Brady, sur ce sujet-là.
On dit que les rumeurs remontent au début de la saison. Toi, Sylvain, là, tout ce que tu entends au sujet de Brady Tkachuk, est-ce que ça te surprend ou il y avait des échos que peut-être que c'était pas tout au beau fixe, là?
Ben non, j'avais jamais entendu parler de rien en ce sens-là. Maintenant, tout ce que j'ai vu, c'est que j'ai vu Brady Tkachuk connaître une saison extrêmement difficile parce qu'il avait fait des promesses aux partisans l'an passé, Tkachuk. Il avait promis que cette équipe-là participerait aux séries cette année. Puis quand ça a commencé, lui et particulièrement Tim Stützle, ça a été un automne extrêmement dur au niveau de la gestion des émotions. Tu sais, on a vu Brady Tkachuk prendre beaucoup de mauvaises pénalités en octobre, novembre, début décembre. Je pense qu'à un moment donné, il était le deuxième joueur le plus puni de la Ligue, entre autres, à cause des pénalités d'inconduite. Puis les nombreuses bagarres provoquées qui allaient chercher des adversaires en fin de match. Donc oui, à ce sens-là, il y avait une frustration de la part de Brady Tkachuk. Maintenant, si tu m'avais dit que c'était parce qu'il était fâché d'être à Ottawa et qu'il voulait partir ou qu'il était tanné de la situation, moi j'aurais été surpris parce que j'ai rien entendu en ce sens-là.
Bon, lui, depuis qu'il est arrivé, depuis son année de repêchage qui remonte à la même année que le fameux Kotkaniemi, là, en 2018, les sénateurs ont raté des séries à chaque année. Il reste que, puis même pour toi là, qui couvre l'équipe et pour les amateurs, on est parti, là, si je remonte à l'année 2018, bon, 28 victoires sur Guy Boucher, changement d'entraîneur par la suite. Là, on entre dans l'ère DJ Smith en 2019-20, 25 victoires, 23 régressions. Oups, un bond à 33 victoires. L'an passé, 39 victoires à 6 points des séries. Et là, ben, on voit pas les sénateurs aller à côté le résultat de l'an passé. Fait que, est-ce qu'il y a un risque que tes meilleurs éléments sur lesquels tu bâtis puissent, un moment donné, commencer à trouver ça long avant que ça débloque?
Ben c'est ça, c'est certain qu'ils trouvent ça long. Mais en même temps, moi, j'estime qu'il y a deux périodes. En fait, peut-être trois. Il y a la période où les jeunes grandissaient sous DJ Smith, où individuellement, l'équipe, t'as dit collectivement, l'équipe progressait, mais ensuite de ça, individuellement, tous les jeunes joueurs, ou à peu près, ont atteint leur potentiel. Ils sont devenus ce qu'ils devaient devenir. Ça, c'est une chose. Ensuite de ça, il y a eu on a atteint un plafond sous DJ Smith où on sentait que c'était peut-être pas l'entraîneur pour collectivement amener cette équipe-là au prochain niveau. Puis ça a été peut-être en fin de saison dernière, puis dans la première moitié de cette saison qu'on l'a vécu. Puis la troisième période, ben, c'est l'arrivée de Jacques Martin. Jacques Martin, il a constaté très, très tôt qu'il y avait eu des lacunes dans l'enseignement collectif du hockey à cette jeune équipe-là. Ça n'a pas été facile dans le premier mois, mais depuis un mois, on voit des résultats. Les Sénateurs ont battu les Stars de Dallas de façon convaincante. Ils ont battu les Golden Knights. T'sais, ils gagnent pas chaque match. Il y a encore les défaites, comme hier soir à Nashville, par exemple. Ils sont pas à l'abri d'une contre-performance. Mais on sent que cette équipe-là, enfin, est prête à gagner. Si tu me dis que les meilleurs joueurs vont cette année, sans doute que si, mettons, dans un an ou deux, l'équipe ne fait pas plus les séries, ça va arriver. Mais pour l'instant, je pense qu'on voit quelque chose arriver qui pourrait être porteur d'optimisme pour l'avenir.
Donc, il y a encore de l'espoir. As-tu l'impression qu'ils ont vraiment beaucoup des éléments nécessaires à être une équipe de série à compter de l'année prochaine ou ça implique, tu penses, quelques changements incontournables pendant la saison estivale?
Ben, au niveau du talent, selon moi, ça a jamais fait. Depuis un an ou deux, on sent que cette équipe-là a beaucoup, beaucoup de talent qui peut rivaliser avec n'importe qui en termes de talent brut. Maintenant, Stéos, quand il est arrivé, quand il a succédé à Pierre Dorion, il a constaté qu'il y avait peut-être des lacunes au niveau de l'expérience du vécu. Tu sais, si t'enlèves Claude Giroux, puis peut-être après ça, là, tu tombes à des joueurs de deuxième niveau, comme un peu là, Travis Amonic, t'as pas beaucoup de joueurs qui ont vécu ça des séries, puis qui ont vécu tout ce qu'il y a à faire par rapport au hockey. Donc, moi, je ne serais pas surpris qu'il y ait des changements. Maintenant, quels joueurs vont partir, quels joueurs vont rester, je ne le sais pas. Je pense que Stéos, depuis son arrivée, lui, ce qu'il fait en ce moment, c'est d'essayer de mesurer, là, c'est de vérifier comment ne pas jeter l'eau du bain avec le bébé avec l'eau du bain, pardon. Mais je crois qu'il va y avoir des transactions. Il va y avoir des joueurs qui vont arriver qui ne sont pas nécessairement des joueurs d'impact, mais des joueurs qui ont du caractère et du vécu. Puis s'il faut sacrifier des joueurs qui ont en bas de 25 ou 26 ans puis qui ont un beau potentiel ou qui déjà connaissent du succès, mais moi, je pense que ça pourrait arriver.
Un mot sur Thomas Chabot. Qu'est-ce que tu penses de son jeu, lui, qui a raté plusieurs matchs cette année?
Ben, écoute, je sais pas dernièrement ce qui se passe avec lui, mais je peux te dire une chose, par contre, j'ai été extrêmement impressionné. Thomas Chabot, qui a passé la première moitié de saison sur la liste des blessés, puis quand il est revenu au jeu, je m'attendais à ce qu'il soit obligé de passer la deuxième moitié à essayer de courir après tous les autres joueurs là, qui avaient déjà 25-30 matchs de plus que lui dans le corps, mais ça n'a pas été le cas. Moi, les derniers matchs que j'ai vus en personne à Canada, j'ai vu un Thomas Chabot en pleine possession de ses moyens, qui profitait du système de jeu de Jacques Martin, puis qui jouait, bon, je dirais peut-être pas son meilleur hockey en carrière, mais assurément son meilleur hockey des trois dernières années. Il y a toujours des Thomas Chabot, c'est un joueur très polarisant à Ottawa. Il y a des fans, mais il y a aussi des détracteurs. Et puis, il y a des gens qui souhaitent que Chabot s'en aille. Moi, je vais dire une chose. Pour moi, Thomas Chabot, pour ce qu'il veut dire à l'équipe là, en termes de leadership, de sa place dans la communauté, puis ce qu'il est capable d'apporter sur la patinoire quand il est bien encadré, c'est un joueur qu'on échange pas en ce moment.
Vois-tu des candidats être échangés d'ici la date limite?
Ben, Vladimir Tarasenko, assurément, s'il accepte de renoncer à sa clause de non-échange, c'est un joueur, ben, depuis le début, là, je l'ai dit sur vos ondes à quelques occasions, moi, je voyais pas à quel point pourquoi les Sénateurs avaient besoin d'un ailier comme lui cette saison. Il a pas mal joué dans le rôle où on lui a confié dans un troisième trio. Maintenant, il peut aider une équipe qui va aller plus loin en série. Et puis après ça, ben écoute, si jamais l'équipe peut trouver preneur pour Dominique Kubalik, qui est une déception à Ottawa depuis son arrivée, il va sûrement être échangé. Et puis, si jamais il y a d'autres joueurs qui quittent, ben, ça pourrait être un joueur de soutien à la ligne bleue. Travis Amonic peut-être, Eric Brandstrom, si jamais il y a des équipes qui veulent ajouter à la profondeur avant les séries. Maintenant, le joueur que je trouve particulièrement intéressant, c'est Jacob Chychrun, acquis l'an dernier pour un choix de première ronde, entre autres, qui n'est pas un mauvais joueur, mais qui n'est peut-être pas, dans le jargon, on dit un bon fit, le meilleur fit en ce moment pour les Sénateurs. Mm-hmm. Il lui reste une autre année de contrat avec un salaire très raisonnable, en bas de 5 millions de dollars. Lui, c'est mon wild card. Si jamais les Sénateurs peuvent l'échanger, peut-être qu'ils vont le faire, mais encore une fois, il faudrait sonder Steve Stéos pour savoir ce qu'il en pense.
Un beau survol de la situation des Sénateurs. Sylvain Saint-Laurent, journaliste sportif en Outaouais, merci beaucoup. À bientôt, j'espère.
Merci, à bientôt.
Bye bye.
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Avec Maxime Lapierre et Guillaume Latendresse. Bonsoir les gars, comment ça va?
Salut Mario, oh, ça
salut
va?
Mario.
Good, good, good. Alors, victoire du Canadien, il y avait d'affaires à la gagner. C'est pour ça que Stéphane White disait en début d'émission que ça peut paraître drôle à dire, mais grosse victoire. Je sais pas si vous êtes d'accord, alors que on est rendu à l'étape de la saison où le monde souhaite les voir perdre pour repêcher le plus haut possible. Mais veut, veut pas, ils vont en gagner une coupe là d'ici la fin de l'année. Mais êtes-vous d'accord pour dire que c'était une grosse victoire, Guillaume?
Ben, moi, je trouve, Mario, tu sais, de dire que qu'on veut qu'ils perdent, je suis pas d'accord. Moi, encore une fois, on a gagné hier. Mais la performance n'était pas là. Au-delà du deux points, au-delà de la victoire, de la défaite, ça, je m'en fous un peu, honnêtement. Moi, ce que je veux voir, c'est la performance. Je veux voir comment est-ce qu'on peut naviguer avec tout ça, essayer de trouver des solutions, essayer de s'améliorer. Hier, je trouve que c'est un match qu'on méritait pas de gagner. Les Coyotes étaient mieux préparés, plus prêts, plus affamés que nous. Puis si c'était pas de Samuel Montembeault, ben on aurait parlé d'une autre défaite du Canadien. Fait que pour moi, au-delà de la victoire-défaite, moi, c'est la performance. On entend souvent le processus. Ben, hier, pour le processus, ça valait rien.
100% d'accord, Mario. T'sais, la performance, c'était pas très bon hier. Puis si tu veux parler d'une victoire, ben pour moi, c'est la façon que Montembeault évolue comme gardien de but dans la Ligue nationale de hockey. Ça, c'est un gain pour le Canadien de Montréal. T'sais, je trouve qu'il s'améliore. Je trouve qu'à chaque fois qu'il est dans les filets, à un moment donné, il commence à nous donner une vraie chance de gagner à chaque fois qu'il est là. Donc, pour le futur, ça, c'est un plus pour l'organisation. Puis on le teste encore là, lors du prochain match, c'est lui qui est devant le filet. On commence à y en donner un petit peu plus. On va devoir le faire. Guillaume l'a mentionné tantôt, plutôt dans une autre entrevue. Faut que tu le fasses gauler, ce gars-là, à un moment donné, pour voir qu'est-ce qu'il est capable de faire quand c'est lui qui a le vrai rôle de numéro un. Et puis ça, pour moi, c'est le positif. Le négatif, je veux pas dire l'effort, parce que je pense que les joueurs se présentent toujours d'une certaine façon en forme pour un match de hockey et tout ça. Puis, t'sais, pour te rendre dans la Ligue nationale de hockey, on s'entend, Mario, tous les sacrifices que tu fais, t'sais, t'as travaillé à un moment donné dans ta vie. Par contre, je trouve qu'on est confortable. Puis la raison est que tu regardes les vétérans dans cette organisation-là, c'est tous des gars, la plupart, là, tous les joueurs qui ont un impact dans l'alignement ont un contrat l'an prochain. Puis c'est ce qui nous fait mal, parce que normalement, t'as des vétérans qui au moins vont se débattre sur la patinoire pour essayer d'extensionner leur carrière. Et là, tu regardes tout le monde, Gallagher, Anderson, Armia, il y a une autre année après l'an prochain. T'sais, il y a juste trois joueurs. Je pense que c'est Ullmann, Pearson, puis Arber Jacquard qui ont besoin d'un contrat l'an prochain. Donc, c'est sûr et certain que ça a un impact sur la patinoire.
Est-ce que le fait que le club ne fera pas les séries, qu'il n'y avait pas d'ambition de les faire cette année, peut justifier le fait qu'il y a des gars qui sont en demi-teinte, qui sont devenus des fantômes dans des chandails bleu, blanc, rouge à la Anderson, là, qui a pas de lancer au but, je pense, dans ses 200 dernières minutes de jeu?
Ouais, moi, je pense, Mario, ces gars-là, tu les veux pas. T'sais, c'est justement ça. Josh Anderson, ça fait longtemps là, qu'on le dit, là. Tu sais, il y a une raison pourquoi Columbus l'a laissé partir contre Max Domi, là. Tu sais, tu comprends? Je pense que les autres aussi ont vu la même affaire, puis on est en train de le vivre en ce moment. Son apport est quasi nul, puis ces joueurs-là qui sont prêts à performer ou qui veulent pas le faire, ben, c'est pas avec ça que tu veux bâtir, puis c'est pas ça que tu veux autour de tes joueurs. Tu sais, ce que tu veux, c'est des gars comme David Savard, des gars comme Matheson, même si c'est pas toujours pareil. C'est des joueurs comme ça que tu dois entourer ton équipe, puis que tu dois essayer. Des vétérans qui sont fiers d'être là, qui veulent pas grandir. Ceux qui sont pas allumés par montrer le droit chemin pour faire grandir les gars, mais je pense pas qu'on a besoin de ça dans notre alignement.
Ben, je pense aussi qu'il faut pas que ça s'étire comme processus, parce que peut-être que maintenant, il y a des gars sur qui on compte pour rebâtir qui vont se tanner. Je sais pas s'il y a un fondement aux rumeurs concernant Brady Tkachuk à Ottawa, mais tu sais, c'est un de tes piliers, puis la rumeur vient d'un endroit qui a des contacts avec la famille, parce que ça serait pas le fun qu'à force de rester dans le cave et de manquer ses rêves année après année, que nos meilleurs joueurs veulent déguerpir, hein?
C'est assez spécial. Si vraiment sur le marché, c'est une grave erreur selon moi, parce que c'est exactement ce qui manque à Ottawa. C'est ce type de joueurs-là qui se présentent à tous les soirs puis qui sont pas juste talentueux, qui sont capables de faire tout pour remporter des matchs. À moins que je connaisse pas le hockey ou je connaisse vraiment pas sa personnalité, je comprends vraiment pas pourquoi c'est le nom qu'on mentionne en ce moment. Ça fait aucun sens pour moi, Mario.
Ben, c'est parce qu'il y aurait un problème là qui est pas documenté. Si, tu sais, on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu, mais
ah ouais.
Ça se peut aussi qu'un gars qui est tanné de perdre, qui est un compétiteur, là, quand ça fait 6 ans que t'es dans la ligue, puis ça fait 6 ans que tu manques les séries, puis t'as moins de points que l'an passé puis l'année d'avant, puis il y a aucun club de reconstruction qui est à l'abri de ça, là.
Non, c'est sûr qu'il y en a des gars comme ça qui veulent gagner, qui veulent, tu sais, mais il reste qu'au final, pas parce que, tu sais, des fois, Tkachuk, je pense que ce qu'on n'aime pas, c'est qu'il pète les plombs, puis il se met à se battre, puis il se met à prendre des pénalités parce qu'il veut gagner. Mais oui, c'est sûr, Mario, qu'il y en a des joueurs qui sont pas capables de rester dans une organisation perdante, puis qui veulent une opportunité de gagner. Puis
Tu regarde le nombre de joueurs qui ont passé par les Sabres de Buffalo, des clubs comme ça qui sont jamais capables de sortir de la cave. Les meilleurs joueurs, ils veulent pas rester là, puis ils veulent pas signer là, mais je pense qu'il y a un processus, il y a une chance à donner à chaque organisation de faire peau neuve, puis de se donner une chance de gagner une coupe, mais il reste que quand même pour moi la situation des Sénateurs d'Ottawa. Oui, on s'attendait à prendre un virage plus rapide. Oui, on s'attendait à être meilleur que ça. Ça, faut en convenir tout le monde. Mais je pense pas que la solution, c'est que Chuck. Je pense que tu dois échanger tes 8 joueurs pareils, là. Quand je dis ça, c'est Norris, Batterson, tout de suite là. C'est les 3 qui me viennent en tête à l'avant. Puis à défense, c'est Chabot, Chychrun, Sanderson, qui sont 3 défenseurs identiques. Fait que je pense plus qu'il est là le problème dans la façon de bâtir l'équipe que le capitaine qui est un peu chialeux ou qui est un peu qui pète les plombs de temps en temps.
Mais c'est un leader qui devient potentiellement négatif à cause des circonstances ou qui a de la misère à canaliser ses opinions ou qui est mécontent, là. Quand bien même tu l'as mis sous contrat pour 8 ans, puis peu importe où t'es rendu dans le contrat, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu le flattes dans le sens du poil ou tu l'échanges, Max?
Ben, il y a deux étapes, là, à tout ça. Premièrement, c'est de s'asseoir avec lui puis d'avoir une discussion. Savoir comment il se sent. Puis la deuxième étape, c'est de présenter un plan. On s'en va par où avec les nouveaux propriétaires puis tout ce qui se passe, le nouveau directeur général. Est-ce que ça fait son affaire ou pas? Est-ce qu'il est prêt à embarquer là-dedans? Puis après ça, ben, tu prends tes décisions. Je pense qu'il mérite au moins ce respect-là, même si c'est pas un joueur très âgé. Il a quand même fait, il a tout donné quand même jusqu'à maintenant depuis qu'il porte l'uniforme. Puis si ça ne tente pas d'embarquer, ben, t'as pas le choix de le mettre sur le marché parce qu'il y a quand même une très, très grande valeur. Par contre, je pense que ça pourrait devenir complexe parce qu'un joueur comme lui va définitivement vouloir choisir où il veut jouer, que ce soit avec son frère, que ce soit avec les Blues de Saint-Louis qui est leur ville natale, si je me trompe pas, à cause de leur père. Donc, ça pourrait devenir très complexe.
Et le père qui est avec les Blues, toi, Guillaume, tu gérerais ça comment à partir du moment que tu sais, mettons, sans mettre de nom sur personne, là, un des joueurs principaux sur lesquels on bâtit, mettons, est mécontent, c'est toi le DG, c'est pas public, mais tu fais quoi?
Ben, je pense que tu fais exactement ce que Max a dit. Tu parles avec le joueur, mais de l'autre côté, si tu sais, un gars qui veut pas jouer chez vous, Mario, là,
bye,
faut que tu trouves une façon de le monnayer de la meilleure façon. Puis c'est tout simplement ça. Ce que tu veux, c'est des gars qui veulent porter ton uniforme et qui sont fiers de le faire. Peu importe t'es qui, peu importe ton nom en arrière de ton chandail, tu veux pas jouer représenter le Canadien de Montréal, le Sénateur d'Ottawa, ben pas de problème avec ça. Puis surtout, de pas attendre trop longtemps, parce que plus longtemps que tu le gardes, plus que sa valeur va baisser, plus que ça va savoir publiquement. Fait que si vraiment Tkachuk est pas heureux, ou peu importe, dans 2 ans, chez le Canadien, ben, tu l'échanges le plus rapidement possible parce que sa valeur est très, très haute, puisque tu vas avoir en retour peut être très élevé et intéressant pour l'organisation.
Mais ça
s'est vu avant, Mario. Tu sais, pense à la situation de DeBrusk avec les Blues de Boston. Lui aussi voulait partir de là à un moment donné, puis on lui a donné un meilleur temps de glace. On l'a essayé avec Bergeron, on l'a essayé avec Pastrnak. On lui a fait un vrai test, puis finalement, il est resté là, puis il est heureux.
Yashin, Lindros, oui, il y en a eu des gars qui voulaient pas jouer quelque part, mais autrement dit, oui, Maxime, c'est intéressant que tu amènes ça. Il y a moyen de réparer des situations aussi. Ça, c'est un excellent point. Bon, j'ai bifurqué sur la situation de Tkachuk parce que c'est dans l'actualité, mais je vous ramène un petit peu sur des éléments du match d'hier. Le temps de glace de certains joueurs, Maxime, on en parlait un petit peu plus tôt avant d'être en onde ce soir. T'étais déçu du temps de glace de certains joueurs, puis je te rejoins, là. Comment se fait que Joshua Roy, on n'est pas capable d'y en donner un petit peu plus? 12-36 hier. C'est pas pire, il y a eu des matchs où il y a eu moins de temps que ça, mais il jouait bien hier.
Ouais, exact, puis c'est un questionnement que j'ai vraiment, tu sais que je respecte beaucoup Martin Saint-Louis, je pense qu'il aide beaucoup à développer ces jeunes-là. Par contre, je regarde hier, tu sais, puis même il y a quelques semaines, on parlait du temps de glace d'Arber Jacky. Hier, c'est Roy, je trouvais qu'il se débattait sa patinoire, il était là, il était agressif en échec avant, on le voit qu'il est intelligent sa patinoire. Pourquoi juste 12 minutes? Je le sais, là, il y a toujours le fameux mérite et tout ça, mais pour moi, il méritait de jouer un peu plus de la façon dont il se comporte depuis quelques matchs. Je trouve que depuis son deuxième rappel, il joue beaucoup mieux sur la patinoire, beaucoup plus convaincant. Puis on a quoi à perdre? Tu sais, c'est là mon questionnement, c'est qu'on est en reconstruction. On va finir dans les 6 derniers de la Ligue nationale d'hockey encore une fois cette année. Donc, est-ce qu'on a peur que ce jeune-là joue 18 minutes puis qu'il fasse une erreur puis qu'on perde le match? Je comprends pas. C'est le temps de tester le monde. C'est le temps de donner un temps de glace puis voir ce qu'ils sont capables de faire sa patinoire.
Ben, il voulait la gagner hier, rassurément, parce qu'entre nous, Guillaume, il y aurait eu des murmures dans la salle si le Canadien s'était incliné contre les Coyotes. Puis pas que les Coyotes sont pas bons, parce que même s'il y avait 15 millions de moins sur la glace hier que le Canadien, là, 40 contre 59, ils ont dominé ce match-là. Et est-ce que c'est inquiétant d'être dominé par les Coyotes? Qu'est-ce que t'en penses?
Ben, je pense qu'on a démontré depuis le début de l'année qu'on a les équipes en bas de classement, comme nous, on a plus de la misère un peu là, à se préparer puis à offrir une bonne performance. Ça, c'est depuis le début de l'année que c'est comme ça, à part peut-être le match contre les Ducks d'Anaheim. Mais pour le Canadien, oui, c'est inquiétant pareil. Tu sais, tu veux être capable de compétitionner contre les équipes que tu dois le faire. Tu sais, pour moi, hier, les Coyotes de l'Arizona, qu'après deux périodes ou 30 minutes de jeu, je pense qu'on avait 12 lancés au filet, là. Non seulement t'as pas un bon match, mais t'as aucune créativité offensive, t'as rien qui se passe. T'sais, hier, chez les Canadiens, on était dans notre territoire défensif, on se faisait tourner du côté des Coyotes de l'Arizona, puis c'est pas une formation incroyable. On a deux trios pour moi, puis peut-être deux, trois défenseurs intéressants chez les Coyotes qui ont été très bons hier. Mais sinon, il y a pas de raison pour moi que les Canadiens n'ont pas une meilleure performance. Puis je suis d'accord. Puis tu sais, on parle de mérite, là, mais Joshua Roy, je m'excuse, y a-tu démontré qu'il est capable de jouer dans la Ligue nationale? Pour moi, oui. Pour moi, c'est un gars qui est capable d'avoir une carrière dans la Ligue nationale, qui démontre qu'on chialait peut-être son éthique de travail. Jusqu'à maintenant, il démontre vraiment pas ça chez le Canadien. Fait qu'on le mette sur la glace, qu'on lui donne des opportunités, puis qu'on enlève à Pearson, Gallagher, Anderson, Evans, nomme ceux que tu veux. Moi, je veux voir Joshua Roy sur la glace 16, 17, 18 minutes, puis qu'il montre qu'est-ce qu'il peut être comme joueur. Donc, il y en a plus de stress, là. Il est plus stressé, joueur national. Là, il veut gagner, puis il veut montrer qu'il peut être un joueur régulier. Ben, donnons-y la chance.
Est-ce qu'en fin d'année, tu l'envoies à Laval jouer les séries dans la Ligue américaine?
Ça, c'est un couteau. C'est une bonne question. Je pense que, honnêtement, oui. Je pense qu'il peut avoir une bonne fin de saison. Puis Max peut en parler peut-être plus. Là, il l'a vécu quand ils ont gagné la Coupe Calder avec les Bulldogs. Mais oui, je pense que c'est un joueur, oui, qui va avoir fait sa place, qui va avoir démontré certaines choses. Mais j'aimerais ça quand même peut-être qu'il ait gagné ou prendre l'expérience à la fin de saison, comme on avait fait avec certains jeunes dans les dernières années.
Max?
Oui, 100%, Mario. Je l'ai vécu. Moi, j'ai passé l'année à Montréal. J'ai été gagner la Coupe dans la Ligue américaine. Puis ça m'avait grandement aidé parce que là, t'arrives avec la confiance de la Ligue nationale de hockey. Tu joues dans la Ligue américaine. Puis là, ton mandat, c'est d'être le joueur sur qui on peut compter justement pour être capable d'avoir du succès en série. Donc, c'est une certaine pression. Je pense que tu tombes dans le rôle un peu, surtout pour un gars comme Joshua Roy qui va sûrement jouer sur les deux premiers trios si tout va bien. Mais là, les gars dans le vestiaire te regardent puis ils disent « Bon, mais on a besoin de ton aide parce que c'est toi qui arrives de la Ligue nationale de hockey. » Puis tout ça, puis c'est une pression que lui va vivre dans le futur en tant que marqueur de but. On le sait à Montréal, lorsque c'est ta job de faire des buts dans les moments importants, mais faut que tu aies vécu un certain stress pour être capable de bien vivre avec ça. Puis j'ai souvent parlé, Mario, cette année avec toi, surtout d'aller prendre des notes, d'aller voir c'est quoi la température dans la Ligue nationale de hockey, revenir dans la Ligue américaine, puis justement travailler sur ce que tu dois travailler pour être la meilleure version de toi-même la prochaine saison dans la Ligue nationale de hockey. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Puis, lorsque c'est pour les séries, l'aspect mental, c'est différent. Tu sais, t'as pas l'impression de te faire punir ou de te faire dire « va t'améliorer ». Au contraire,
il y a un objectif, il y a une intention derrière ça. Ouais.
Exactement, c'est comme « va aider les jeunes ». Tu sais, c'est comme ça que tu te sens.
Exact. Ben, excellent propos, Maxime, à ce sujet. Guillaume et Maxime sont avec nous à la Poche Bleue Radio.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Pour les fidèles du sport.
Mon prochain invité a failli réaliser tout un exploit cette semaine avec les Capitals de Washington en passant tout près de devenir le troisième joueur de l'histoire à inscrire un tour du chapeau naturel dans une victoire de son équipe sur les Sénateurs. Vous l'avez deviné, Hendrix Lapierre qui a marqué deux buts en deuxième période dans le match contre les Sénateurs. Il est avec nous ce soir aux amateurs de sport. Salut Hendrix.
Salut, comment ça va?
Ça va très bien. Toi-même, ça doit te mettre en confiance, une performance comme ça.
Ouais, vraiment, c'est le fun de jouer du bon hockey. Ça faisait longtemps, justement, depuis le début de l'année, ça va relativement bien. Je te dirais, j'ai eu 3-4 mauvais matchs quand je me suis fait retourner de la Ligue américaine il n'y a pas longtemps. Mais à part ça, là, ça va vraiment bien depuis le début de l'année. Je joue en confiance. Puis ces temps-ci, je pense que j'ai comme un peu compris comment ça marche puis comment se faire une place tranquillement, pas vite dans le pro. Ce que les coachs veulent, ce que tout le monde s'attend, justement ce que le monde y veut, puis ça va bien ces temps-ci, je travaille fort, je garde ça simple, puis j'ai une couple de bonbons qui font que ça ça rentre en ce moment.
Ben, j'aime beaucoup ta première réponse, puis j'ai envie de gratter un petit peu dans cette direction-là, là, que tu as compris une couple d'affaires, puis c'est ça, devenir un jeune professionnel puis un bon pro. Qu'est-ce que tu as compris, Hendrix, exactement, là, pour gagner la confiance des coachs, puis du temps de glace aussi?
Oui, ben c'est difficile à dire comme ça, mais c'est vraiment comme c'est cliché au bout, mais c'est, tu sais, les petits détails. Moi, des fois, j'essaie de trop en faire peut-être un peu parce que tu veux impressionner, mais dans le fond, le secret aussi, ça peut être de juste, tu sais, placer des rondelles dans le fond de la zone, puis aller chercher, puis aller créer du momentum en allant jouer justement dans la zone offensive. Donc des fois, tu essaies de passer à travers une couple de gars, mais là, je pense que c'est j'essaie de garder ça simple, j'essaie de juste mettre la rondelle dans l'espace où les défenseurs vont pas pouvoir aller la chercher, puis où mon ailier va pouvoir arriver en premier, ou moi je vais pouvoir arriver en premier. Fait que des petites affaires comme ça, puis en zone offensive, de garder la rondelle, de bouger mes pieds, des fois dans le junior où t'as plus de place un peu, fait que t'as le temps comme de rester immobile puis d'attendre, mais là, dans le pro, de bouger ses pieds. Fait qu'il y a une couple d'affaires que tu réalises peut-être pas, mais justement en voyant les joueurs jouer, puis en jouant dans le pro, tu réalises que c'est ça qui font leur succès. Puis j'ai encore beaucoup de travail à faire, mais comme j'ai dit tantôt, je pense que je commence un peu à comprendre puis à peaufiner ma game en fonction de comment ça se passe puis comment il faut que je joue.
Bon, je parlais de tes deux buts contre les Sénateurs d'Ottawa, un but contre Détroit. Est-ce que c'est circonstanciel ou justement dans les derniers matchs, puis tu as eu du temps de glace aussi, un peu plus de chances de te faire valoir? Quand tu as 7, 8, 9 minutes, pivoter un quatrième trio, c'est difficile de se mettre en valeur. Fait que là, est-ce qu'il y a quelque chose qui vient de changer un petit peu dans ton utilisation, Hendrix?
Pour être honnête, je pense que c'est plus les circonstances, là. Tu sais, contre Ottawa, on gagnait 6-3, donc j'ai eu beaucoup de chiffres en fin de match. Puis contre Detroit, on perdait 8-3. Fait que j'ai eu beaucoup de chiffres en fin de match, puis en troisième période. Mais, je te dirais que c'est sûr, c'est le fun de beaucoup jouer, puis de se sentir dans l'action. Puis, comme j'ai dit tantôt, ça va vraiment bien depuis le début d'année, là. Je pense que les buts, c'est le fun, mais
c'est pas juste ça.
C'est facile de regarder les stats et de dire, ah, mettons, il y a une couple de mois, la Pierre, il n'y a pas eu de points, ça va peut-être pas bien ces temps-ci, mais moi, j'étais content de la façon que je jouais. J'avais encore beaucoup d'affaires à peaufiner, puis c'est pour ça que ça m'a fait de retourner à l'américaine, mais je pense qu'en ce moment, les buts, c'est... Oui, je joue peut-être une game un peu plus mature, mais mon éthique de travail et mon effort, c'est quelque chose que j'essaie d'apporter à tous les matchs, puis que j'ai l'impression que je fais bien depuis le début de l'année. Puis comme j'ai dit tantôt, c'est le fun d'être récompensé en ce moment puis d'avoir des bombes. J'essaie de travailler. Je passe beaucoup, beaucoup de temps tout le temps après pratique, avant pratique, tirer des rondelles, puis essayer d'avoir une mentalité de plus shotter. Puis je pense que mes buts, c'est pas des lasers dans le top corner, mais ça reste que quand tu donnes à ton cerveau le genre de « OK, là, faut que tu commences à shotter », ben là, évidemment, il y a une couple de rondelles qui commence à rentrer, ou tu as plus de chance, ou tu frappes des poteaux, peu importe. Puis en ce moment, c'est ça qui se passe.
Entre les premiers matchs que tu as joué avec les Capitals en 2021-22, tu as joué après ça 81 matchs de Ligue américaine. Et là, ben, tu reprends le pouls de la Ligue nationale, puis là, tu commences à avoir du succès. Mais qu'est-ce qui est le plus difficile, selon toi, Hendrix Lapierre, là, pour, tu sais, dans le jeu, là, la marche à grimper là, pour arriver dans la Ligue, là, si tu compares Ligue américaine, Ligue nationale?
Moi, je pense que c'est la constance. En tout cas, personnellement, c'est ça. Dans la Ligue nationale, c'est les deux ligues, t'as beaucoup de matchs, puis faut que tu sois à ton meilleur à chaque match. Mais dans la Ligue nationale, je pense que si t'as une mauvaise game, ça paraît tout de suite. T'es mis sur le spotlight, puis c'est difficile de jouer 82 matchs, puis d'être tout le temps constant. Mais une autre affaire que j'ai réalisé, c'est qu'est-ce que tu peux faire. T'sais, mettons, moi, j'ai une game que peut-être j'ai un peu moins de jambes, ça va moins bien, mais qu'est-ce que je peux apporter autre que mon talent offensif? Ben bon, je peux essayer d'être bon dans ma zone, dans zone neutre, pas faire d'erreur, garder ça simple, aller devant le filet, créer du chaos dans une offensive, peu importe. Donc, je dirais que c'est ça quand même que j'ai réalisé. Mais ouais, je pense que la constance, c'est difficile. Puis dans la Ligue américaine aussi, c'est une ligue qui est vraiment difficile dans la Ligue américaine.
Tu peux pas brûler la ligue, hein? Tu peux pas brûler la ligue de même, là, non
ça,
plus dans la Ligue américaine.
C'est vraiment, vraiment physique. Puis la division à Hershey où on joue, c'est vraiment la division la plus défensive, la meilleure division. Si tu regardes en termes de pourcentage de points, chaque équipe est bonne. Donc, c'est tout le temps des games de 2-1, de 3-2. Souvent, les gars, ils passent dans le junior. Des fois, tu avais des games. Des fois, ça fait bizarre de dire ça maintenant, mais le mercredi soir, tu jouais contre une équipe qui était pas super bonne. Ben là, tu savais que même si tu jouais une mauvaise game, peut-être qu'il y avait des chances qu'elle allait se produire quand même des choses. Ben là, dans les américaines, c'est même genre, Il n'y a pas de game que t'es comme ça va être peut-être un peu plus facile ce soir, je vais au moins me faire frapper. Chaque game, c'est vraiment c'est une guerre. Tout le monde essaie de monter en haut, puis tout le monde essaie de faire les séries. Donc, c'est difficile la Ligue américaine en termes de, je trouve, du côté physique, mais ça t'aide énormément dans la Ligue nationale, justement, parce que le step est... C'est moins gros entre la Ligue américaine et la Ligue nationale qu'entre le junior et la Ligue américaine.
As-tu trouvé ça long de jouer dans la Ligue américaine à date? Puis est-ce que tu as des indications de la direction s'ils veulent te voir aller gagner le championnat avec Hershey ou s'ils veulent que tu aides l'équipe à faire les séries en haut?
Ah, j'ai aucune idée. Je parle pas beaucoup à la direction. Moi, je vis au jour le jour en ce moment pour de vrai. Si j'avais à prendre un guess, en toute honnêteté, je pense qu'ils aimeraient ça que j'aille jouer en série parce que bon, c'est bon pour un joueur vraiment de pouvoir jouer des games qui sont importantes comme ça. Puis tu sais, peut-être que je vais passer le reste de l'année. J'ai vraiment aucune idée. Là, j'y vais au jour le jour, comme j'ai dit. Mais ouais, je pense que pour une équipe, justement, la Ligue américaine, cette année, j'ai pas tant joué que ça, mais je te dirais l'année passée, c'est sûr qu'il y a des fois que c'était plus tough, puis je voyais des gars monter, puis j'étais comme ah, j'aimerais ça sur ça ma place. Puis je pense que cette année, je me sens beaucoup plus à l'aise, puis mes games. Je te dirais pas moins stressé, mais je suis beaucoup plus à l'aise, justement. Je suis plus en confiance, je fais des jeux. C'est fou comment une année professionnelle peut te faire grandir et prendre un step comme ça. Puis, justement, je souhaite évidemment plus jamais jouer dans la Ligue américaine de ma vie comme chaque joueur qui sont ici, mais je suis conscient que c'est quand même une ligue qui t'aide et qui te fait grandir comme joueur.
Tu as vraiment la tête à bonne place là, avec tout ce que j'entends de ta part. Je veux te poser quelques questions là, sur l'accueil que tu as eu. Bon, les gars t'avaient connu un peu à travers les camps d'entraînement, les matchs que tu avais joués après ton séjour chez les juniors, mais qu'est-ce que c'est que d'arriver là? Puis c'est quand même une légende, là, Alex Ovechkin, puis quelques vétérans, l'ancien du Canadien, Pacioretty, le Québécois Anthony Manta, tu as des amis? Puis comment t'es accueilli globalement par l'équipe?
Je pense que je suis bien accueilli. Je pense que j'apporte une certaine énergie dans le vestiaire. J'aime ça dire quand le monde me demande comment ça va, mettons, le matin, mais no bad days. Il n'y a pas de mauvaise journée quand tu es dans la Ligue nationale. C'est toutes des bonnes journées. J'essaie d'en profiter à 100%. Puis, ce que les gars un peu plus vieux me disaient, c'est que justement, c'est bon d'avoir cette énergie-là parce que des fois, quand tu es rendu à 30, 35 ans ou peu importe, ben ça fait longtemps que tu es là, ben c'est plus tough de trouver cette petite étincelle-là, mais j'essaie d'être le fun puis d'avoir une super bonne éthique de travail pour pouvoir compétitionner avec les joueurs qui sont là depuis longtemps puis apporter une certaine énergie. Fait que je pense que l'accueil est très bon. J'ai beaucoup de joueurs qui m'aident. Je suis un gars qui pose quand même beaucoup de questions, donc que ce soit à nos centres pour certaines circonstances ou que ce soit à des vétérans pour savoir comment certaines choses marchent, ben tout le monde est là pour moi. Fait que c'est le fun. C'est un beau vestiaire. Puis je peux pas vraiment comparer avec les autres places parce qu'évidemment j'ai jamais été ailleurs, mais je pense qu'on a un très 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 beau groupe là.
Ouais, qu'est-ce que c'est que de jouer aux côtés d'Ovechkin ou de le regarder quand t'es pas sur la glace en même temps que lui, même s'il est vieillissant là, bien sûr.
Non, c'est super le fun. Quand j'étais petit, c'était Luke Crosby, c'était mes deux idoles comme pas mal tout le monde, je pense. J'ai eu des lancers jaunes jusqu'à l'âge de 12 ans, je pense. Fait que c'est le fun d'être avec lui pour vrai puis de le voir sur une base quotidienne. Puis il y a beaucoup de monde après 30-40 matchs qui commençait à dire que oh, Ovi est plus là pantoute, mais je pense que c'est ça qui fait que c'est une légende, c'est qu'il a prouvé à ces gens-là qui étaient de retour. Je pense que si tu regardes ses 20-25 derniers matchs, c'est assez hallucinant. Puis justement même les Caps qui ont comme un regain de vie là hier, ça a pas bien été, mais mettons si tu regardes avant ça, fait que c'est lui qui sonne la charge, c'est lui qui est le capitaine, puis c'est le fun de le voir aller, justement, là, malgré le fait qu'il soit rendu à cet âge-là, puis ça fait, justement, depuis 17-18 ans que je gagne à ça.
Sens-tu une certaine nervosité chez certains joueurs, puis même chez des jeunes joueurs comme toi, des espoirs à la date limite des transactions, puis est-ce que tu sens que tout le monde a la tête à tenter de faire les séries cette année?
Ouais, je pense qu'à Washington, c'est ça le but numéro un. Je sais pas ce que... Justement, ce que la direction va décider de faire. Là, je pense que tout le monde en ce moment est comme un peu en stand-by. Puis tu vois des rumeurs ici et là, mais je pense qu'on essaie de pas trop se fier à ça. Moi, personnellement, je contrôle ce que je peux contrôler. Fait que c'est pas la période des échanges qui va me faire stresser. Puis je pense que la plupart des gars aussi sont dans un bon état d'esprit. Justement, on a des vraiment grosses games qui s'en viennent. Là, on joue contre Philadelphie, on joue contre Pittsburgh, deux des trois prochains matchs. C'est des rivaux de division. Fait que les gars ont la tête à ça, puis je pense que quand vendredi 8 mars va arriver, ben là, on, il va peut-être avoir un peu plus un stress ou un œil attentif parmi nous autres, mais pour l'instant, là, on se concentre à 100% sur ce qu'on a à faire, puis c'est de gagner nos matchs justement avant la période des transactions, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver.
Une petite dernière en terminant en entrevue avec Hendrix Lapierre. Hendrix, si je peux me permettre, connais-tu l'histoire du choix de ton prénom par tes parents? Et y aurait-il un lien avec Jimi Hendrix par hasard?
Un mini lien. Si j'ai bien compris, là, mes parents m'ont raconté l'histoire il y a quand même longtemps, mais il était à un restaurant, puis il y avait du Jimi Hendrix qui jouait, puis je pense que c'est sûr mon père qui a dit à ma mère, ma mère qui a dit à mon père, hey, si on a un fils, on devrait l'appeler Jimi, puis je pense que l'autre a répondu, non, on l'appellera Hendrix, puis ça a comme fini là, c'était comme un peu une joke, puis finalement, quand ma mère est tombée enceinte, peut-être qu'elle était déjà enceinte, là, peu importe, ils ont décidé de m'appeler Hendrix, puis là, c'est ça, pendant un petit bout, ma famille était comme, ben voyons, vous allez pas l'appeler Hendrix, puis finalement, c'est ça qui est ça, fait que, non, c'est bien le fun, c'est une petite anecdote cocasse, puis je pense qu'ils sont bien contents de leur choix, là.
Et ça te distingue très certainement, les coéquipiers t'ont-ils déjà posé la question?
Il y en a quelques-uns qui m'ont déjà demandé, puis je raconte la même histoire à chaque fois, mais il y a une couple de gars qui m'appelle Jimi, fait que c'est quand même drôle des fois que j'entends Jimi puis je suis comme ah, c'est vrai, c'est moi ça, fait que
c'est drôle.
Non, les gars m'agacent de temps en temps, mais pas plus que ça, là, je pense que c'est ça.
Ben Hendrix, salut, je sais pas si Jimi va devenir ton prénom pour le reste de ta carrière, mais en tout cas on te regarde aller, puis je suis content des succès que tu recueilles actuellement. Bonne fin de saison avec les Capitals.
Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Bonne soirée.
Ben merci à toi, très gentil dans ta journée de congé. C'était Hendrix Lapierre des Caps de Washington qui était avec nous, amateurs de sport. Bonne fin de soirée, Hendrix.
Merci.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
C'est 23.
au réseau Cogeco. Vous écoutez les amateurs de sport.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.